Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Tu penses, Alex?
Ah, pardon, je suis en train de me replonger dans les ouvrages qui ont bercé ma jeunesse.
Ah oui, je vois le Club des Cinq, Agatha Christie.
Oui. Parce qu'en fait, notre invité, Thibaut de Montalembert.
Ah, c'est l'acteur de 10%.
C'est ouais, ça. Ouais, ouais. Eh bien, il vient pour un livre où il raconte ses lectures à lui.
Ah, bah, à mon avis, il lisait 9,90 francs de Bec BD. Hein? Bah, c'est 10% de 99 francs.
Oh, brillant. Et toi, Charline, tu lisais quoi quand t'étais jeune?
Alors, moi, très tôt, j'ai lu la biographie de Raymond Barre. C'était fascinant. Ouais. Et puis, Les Pensées de Pierre Mauroy, j'avais quoi, 12 ans.
Coloriés.
Ah bah non, je les mettais en perspective avec les carnets d'Alain Perfitte, évidemment.
Ah bah c'est une chouette jeunesse, ouais, hein, dis donc.
Et toi, Guillaume, c'était...
Bah moi, mon livre, le premier, c'était L'art d'avoir toujours raison, de Schopenhauer.
Ça t'a marqué à vie, non?
Oui, c'est vrai.
Et toi, Alex, c'était quoi ton livre de chevet? C'était L'idiot?
Ah non, plutôt Bel Ami, alors je dirais.
Ah, d'accord, voilà. Mais il n'y a pas que les livres.
Ah non, non plus.
Oui, bien sûr. Et moi, par exemple, Ma révolte, je la tiens du canard enchaîné, tu vois.
Moi, c'était Le chasseur français, mais j'ai pas dû bien le lire, en fait.
Moi, c'était plutôt Femme actuelle.
Ou Le catalogue de la redoute, hein. Ouais, je vois.
Non, 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 je m'intéressais surtout à ce que lisait ma maman.
Mais Alex, tu lisais vraiment quoi comme livre?
J'ai beaucoup lu un livre de sagesse indienne.
Ah oui?
Ah bon?
Oui. Mais tu veux dire un auteur indien? Et comment il s'appelait?
C'était un nom bizarre. Hein,
attends, il y avait beaucoup d'images.
Oui, 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 voilà, c'est d'accord. Ça.
Et tu le lisais dans toutes les positions?
C'est ce livre-là, je me sens un petit peu comme le missionnaire de la littérature.
Les gars, j'espère que Thibaut de Montalembert, il n'aura pas la même bibliothèque qu'Alex, parce qu'on est mal.
Pas possible, parce qu'elle est toujours chez ma mère, dans ma chambre, la bibliothèque.
Ah oui.
Bonjour la France Inter, vous écoutez la Start-up publique et voici les actualités appelées à témoigner devant la commission d'enquête de la blague. L'Allemagne a demandé à tous les Européens d'arrêter de vendre des armes à l'Arabie Saoudite. La France n'a pas répondu parce qu'elle est le deuxième importateur. Le Made in France tue au Yémen et pourquoi Paris fait profil bas face au prince Ben Salman?
La prince, elle dit t'es qui pour lui parler comme ça? Il parle pas français le prince? Si? Mais il parle pas à toi.
Canal Plus est en train de divorcer du cinéma français. La chaîne est le premier financier, mais au moment de rediscuter, elle est en train de tout envoyer balader, ce qui va bouleverser le 7e art hexagonal. Alors ça va ressembler à quoi le cinéma sans le financement de Canal Plus?
Les films étaient muets, et puis tu tournais le projecteur à la main, comme ça. Toute la sainte journée, tu tournais la manivelle. Elle était dure, cette foutue.
L'Académie française devrait arrêter le dictionnaire. C'est ce que proposent de nombreux linguistes, notamment parce que les académiciens refusent de féminiser les mots, par exemple. Mais c'est vrai, ça, mais qu'est-ce qui branle sous la coupole?
Ces vieux qui s'accrochent à leur bout de gras, là, c'est d'un béni. En plus, son dentier était mal réglé, on comprenait rien à ce qu'il disait.
Notre invité est la voix française de Hugh Grant. Lui pourrait faire sa doublure. Bon, dodo, mais c'est déjà pas mal. Bonjour, Alex Vizorek.
De mèche.
De dos et de loin. De dos.
Bonjour Charlotte Benonacker, vous avez essayé d'être gentil, mais les autres autour de la table n'ont pas suivi. Je vous présente malgré tout
une belle équipe.
À 17h20, il est le champion de la fake news. Aujourd'hui, c'est son anniversaire, il fête ses 23 ans. C'est vous Pablo Mira, bonjour.
Salut Alex, bonjour Charline. Guillaume. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi la chasse est nécessaire afin, entre autres, de réguler les populations animales et ainsi prévenir l'apparition de ghettos contrôlés par des lapins islamisés. C'est assez simple comme raisonnement, vous allez voir.
Très bien, à 17h30, celui qui fait de l'humour bio, c'est-à-dire réservé à des gens qui ont les moyens de le comprendre. C'est vrai. Guillaume Meurice.
Bonjour à tous, et je vais vous parler du bio aujourd'hui.
Bah oui,
quel beau lancement.
C'est pour ça que je l'avais mis dedans avant.
Il est fort.
Mais
c'est un professionnel. Ouais, je suis allé sur un petit marché et j'ai même rencontré une fan de Charline. Eh ouais, enfin presque.
Ma petite Annette Vanhoenacker, c'est ma choupette.
Est-ce qu'on est sûr du prénom?
Je l'appelle Annette. Moi, je sais pas pourquoi dans ma tête c'est Annette, mais bon, c'est peut-être pas Annette.
Ça se trouve, c'est Charline.
Voilà, c'est ça. Bah, c'est Charline. Moi, je l'appelle Annette.
Ouais, ça va, Annette. Ça va bien. Elle est fan, hein.
À 17h40, quand elle donne son avis sur le livre de l'invité, on l'appelle Juliette Angot. Mais son vrai nom, c'est Juliette Arnaud.
Mais tellement pas.
Mais bonjour, pour mettre la pression à l'invité.
Non, mais c'est impossible que je dise du mal de Thibaut de Montalembert. J'ai une chose très importante en commun avec lui, le marquis de Sade.
Très bien. On va donc savoir qui est l'invité parce qu'il y a un gros suspense maintenant.
Bah, à mon avis, c'est le marquis de Sade, elle vient de dire.
Ouais, c'est cramé.
Voilà, celui qui va nous aider à lire entre les lignes de l'actualité, mais on aimerait l'entendre de votre douce voix. Vous êtes
Thibaut de Montalembert.
Ah, ben voilà, voilà.
Vous c'est pas mieux. Avec la même voix, c'est pas
vrai. France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek. par Jupiter.
Bienvenue Thibaut de Montalembert.
Bonjour, bonjour, bonsoir,
bon,
je sais
bonjour.
Plus.
Oui, le 17h12, on peut commencer à se dire bonsoir. Alors, vous publiez un ouvrage qui s'appelle « Et le verbe se fait chair ». C'est paru aux éditions de l'Observatoire. On vous accompagne dans votre parcours de lecture. Et donc, la première question... est-ce que vous pourriez nous raconter qu'est-ce qui, dans votre enfance, a fait que vous êtes tombé dans les livres comme on tombe dans la poudre ? C'est un peu ça.
Ah oui,
vous
d'accord.
Vous êtes tombé dedans,
non, c'est vrai,
vous dévoré.
Non, c'est vrai, c'est pas faux. C'était complètement addictif en plus comme truc. Et pourquoi ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas, il y a une fée qui s'est penchée sur mon berceau. Je pense qu'il y avait beaucoup de solitude. Et donc, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de rien. Il n'y avait pas de jeux électroniques, il n'y avait pas tout ça. Et par contre, il y avait des livres. Et donc, ben voilà, j'ai commencé à en prendre un, puis deux, puis trois, puis quatre. Et ça a été une ouverture sur l'imaginaire. C'est tout d'un coup, c'est... Tout s'est ouvert.
Vous dites que la télé, elle est arrivée vers 7-8 ans,
ouais.
Et que le livre étant arrivé avant, votre imaginaire était déjà créé par la lecture. Et donc la télé n'a pas pu le supplanter.
Non.
C'est foutu aujourd'hui, ça.
Oui.
Non, mais c'est vrai.
Oui. Non, mais c'est vrai, mais c'est foutu, et en même temps, c'est comme ça. Donc, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que ça donne comme imaginaire. Il y a un imaginaire différent qui se transmet aujourd'hui aux enfants, aux jeunes, etc., qui passe par autre chose, mais qui n'en est pas moins là.
En tout cas, il y a eu un peu d'ennui, de solitude dans l'enfance, des bouquins sous la main. Et donc, résultat, aujourd'hui, vous dites vous entrez dans une librairie comme d'autres entrent dans une pâtisserie, parce que vous aimez presque les manger, les dévorer, les triturer. Alors, vos héros, vous dites, c'est d'abord, quand vous êtes petit, c'est d'abord Saint François d'Assise, Saint Ignace de Loyola. C'est vrai que vous destinez plutôt à être curé, c'est vrai.
Et puis vous
découvrez Arsène Lupin. Alors là, quand vous lisez, c'est tout d'un bloc, c'est tout Arsène Lupin, tout c'est par séquence. Et puis vous découvrez aussi l'érotisme à travers la littérature.
Oui, pas au même âge.
Pas au même âge, bien sûr. Mais quand on passe de Saint François d'Assise à Arsène Lupin, puis à l'érotisme en littérature avec le Marquis de Sade, etc., est-ce qu'on peut dire que la littérature fait dévier du droit chemin?
Ah, on peut dire ça, on peut dire ça. Il faut espérer que ça fasse dévier du droit chemin. C'est fait pour, d'ailleurs.
Ouais.
Normalement, ça devrait être ça. Ça doit être subversif, la littérature. Mais,
ça a vraiment fait toute votre éducation, la littérature.
Oui, et puis bon, alors après, comme je suis quelqu'un d'un peu paresseux et que j'ai du mal à me concentrer trop longtemps sur le même truc, mais en même temps, c'est contradictoire parce que j'ai du mal à me concentrer longtemps, mais en même temps, je suis complètement addictif. Donc, Arsène Lupin, effectivement, je tombe dessus et je les lis tous à la suite, comme des petits pains, parce que là,
si vous voyez écrit Marc Lévy dans une librairie, faites gaffe. Vous êtes parti pour une mauvaise séquence.
Non,
vous lui avez pas dit en face. Vous étiez à côté.
Et puis il y a un grand amour des classiques, mais pas que.
Non, mais pas que. Ça se mélange en fait.
Ouais.
C'est vraiment ça se mélange. C'est pour ça que je dis que c'est comme une pâtisserie quand je rentre dans une librairie, parce que je vais comme un enfant, je vais voir oh il y a ça, oh mais il y a ça aussi, oh mais il est beau celui-là, parce que c'est aussi le package du bouquin qui est intéressant.
Ouais.
C'est comment il est fabriqué, qui attire.
Vous êtes attiré par la couverture, parce que c'est vrai que c'est un piège, ça devient un
bien
piège
sûr.
Pour certaines littératures.
Oui, bien sûr.
Le dernier, Éric Zemmour, a une belle couverture.
Mais en même temps, au bout d'un moment, on arrive à décrypter quand même, au bout d'un moment.
Oui, bien sûr. Et vous avez finalement un tel respect pour la littérature, une telle révérence, c'est tellement de choses pour vous, que de passer à vous-même un livre, c'est pas l'écriture, vous l'avez dicté.
Ouais.
Est-ce qu'il y a... Vous avez tellement de respect pour...
C'est pas uniquement une question de respect. C'était plus une question d'orthographe. Parce que j'ai un vrai problème avec l'orthographe. J'écris...
On va y revenir d'ailleurs.
Voilà. et du coup, d'enregistrer le bouquin, ça me faisait passer par-dessus l'orthographe.
Mm-hmm. Je vais me permettre, parce que quelqu'un autour de la table n'a pas voulu se sacrifier, mais je vais...
Allez-y.
Parce que vous faites votre bibliothèque idéale à la fin.
Il y avait
quatre
des
grandes
qui vous
pages. Il n'y a que quatre auteurs féminines.
C'est vrai.
Cette personne m'a proposé de vous faire un cadeau.
Qui est cette personne ?
Ce livre d'Éric Dussert. Quelqu'un autour de la table qui ne voulait pas se dénoncer. Caché par la forêt. 138 femmes des lettres oubliées et que vous allez peut-être découvrir de manière compulsive.
Oui, bon, j'espère.
Moi, je me serais jamais permis. Mais
non, mais bien sûr, Alex.
Tenez, espèce de sale misogyne.
C'est la déclaration d'amour de Thibaut de Montalembert à la littérature. Ça s'appelle « Et le verbe se fait chair ». C'est paru aux éditions de l'Observatoire. Et Juliette Arnaud va y revenir, bien sûr, tout à l'heure et tout au long de cette émission, car Thibaut de Montalembert est avec nous. Il n'est pas que dans 10%, la saison 3. de la série sur France 2 qui va reprendre à partir du 14 novembre pour notre plus grand plaisir. Et là, le petit train d'Erita Mitsuko vient d'entrer en gare. Alors éloignez-vous de la bordure de l'Open Space. Ce train aura pour destination l'Arabie Saoudite, le financement du cinéma, le dictionnaire de l'Académie. Si vous n'avez pas composté le billet, adressez-vous au contrôleur Visorek. Chers auditeurs, France Inter, c'est magique. Il y a Alexis Demeyer qui fait les flashs, qui a retrouvé mon écharpe. Voilà, je sais que vous étiez inquiet. Merci Alexis, il est venu me l'apporter en studio, il est charmant. On le retrouve demain pour les flashs. Merci Alexis Demeyer.
C'est tellement service public.
C'est beau. Bon, alors parenthèse fermée, oui, chers auditeurs. Non, mais excusez-nous, mais voilà, tout est bien qui finit bien. Thibaut de Montalembert est avec nous. Le verbe se fait chair, son livre paru aux éditions de l'Observatoire. Nous allons y revenir avec Juliette Arnaud tout à l'heure. Et outre Juliette, qu'y a-t-il ?
Eh bien, il y a Guillaume Meurice, oui, et il y a Pablo Mira,
ça,
malheureusement.
Mieux, ça. Ça, c'est mieux en termes de
allez, ne prenez pas froid non plus l'information.
Aujourd'hui, à l'international, moi, on m'appelle, d'accord ?
Le journal de presque 17h17.
Debout les damnés de la terre.
C'était Sophia Chikirou, qu'on appelle à l'international. Appelez-la, hein, surtout, appelez-la. Oui,
surtout si vous êtes à l'international. Oui.
On commence par les titres.
Invitée sur BFM TV, oui, justement, la communicante de Mélenchon, Sophia Chikirou, a déclaré « Pour me faire baisser les yeux, il faudra me les crever ».
Sophia Chikirou, la seule femme qui achète ses chaussures les yeux fermés.
La France envisage le rapatriement d'enfants de djihadistes français signalés en Syrie.
Oui, bonne idée. En plus, ils vont à l'école en France, ça les changera pas trop de voir des abrutis dégainer une arme.
Et des brèves.
Oui, parce qu'à l'international, on m'appelle pour les brèves.
Ça coûte plus cher, hein.
Oui.
C'est le roaming.
D'avoir un petit point météo.
Oui, ce week-end, les températures vont dégringoler et des chutes de neige sont attendues. Donc heureusement que j'ai retrouvé mon écharpe, pour dire. Alors que la semaine dernière, les gens se baladaient encore en short.
Et oui, Aurore Berger est capable d'aller sur BFM TV pour expliquer que Ce sont les mesures prises par François de Rugy pour lutter contre le réchauffement climatique qui commencent à porter leurs fruits.
Revenons-en donc à Sophia Chikirou. Selon elle, la réaction de Jean-Luc Mélenchon lors de la perquisition chez lui était, je cite, un coup de génie.
Et c'est ça, c'est ça. C'est un coup de génie. Et si c'est un coup de génie, Alain Finkielkraut, c'est Einstein.
Et elle a déclaré, il n'y a pas de surfacturation, non. Il n'y a pas d'enrichissement personnel, il n'y a pas eu de détournement de fonds publics.
Oui, je pense qu'elle a pris le même cabinet d'avocats que les patrons de Big Malion.
L'auto du patrimoine à présent, face aux députés, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, a reconnu qu'une partie des recettes ira dans les caisses de l'État, donc plutôt que directement dans le patrimoine.
Oui, Stéphane Bern s'est rendu à l'État civil pour se faire renommer Stéphane Bernet.
International à présent et le meurtre de Jamal Khashoggi, Emmanuel Macron s'est agacé qu'une question sur les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite lui soit posée.
Eh oui, mais c'est gênant hein, de dire du mal de ton meilleur client. Je peux vous dire qu'on ne verra jamais la marque Sopalin critiquer Pablo Mira.
Laurent Deutsch était invité sur France 5 et il a dit, je le cite, « Je ne vois aucun intérêt à apprendre l'arabe à l'école. Sachez que dans la langue française, il y a déjà 600 ou 700 mots arabes. »
Eh oui, Laurent Deutsch est aussi pertinent en lexicologie qu'en histoire, apparemment.
Musique, Laetitia veut ouvrir un musée et une école de musique Johnny Hallyday.
Oui, c'est marrant, un musée et une école, deux endroits où il n'a pas dû aller souvent, mon Jojo. Je pense qu'un centre de désintox aurait été plus cohérent.
Société, toujours un adolescent sur cinq a déjà reçu des sextos.
Eh oui, et les quatre autres n'ont pas donné leur numéro à Jean-Marc Morandini.
Des brèves.
Oui, des brèves. Un homme décédé après avoir mangé le cerveau d'un écureuil. Et c'est la première fois dans l'histoire que c'est le gland qui mange l'écureuil. Il fallait que ça se paye.
La dernière.
Et la dernière, attention, accrochez-vous. Grande, dans la grande série, les Belges ont du talent.
C'est une bonne.
Celle-là, elle est très très bonne. Le journal de RTL TVI, c'était pas ouvert avec ça quand même, mais un des titres, c'était celui-là.
Un braquage peu ordinaire dans la région de Montigny-sur-Sambre. Le commerçant braqué est parvenu à convaincre les voleurs de revenir en fin de journée quand la caisse serait pleine, ce qu'ils ont fait.
Et oui, mais attention, parce que là l'histoire elle est comme ça. Mais ils sont allés quand même interroger Didier, le commerçant, pour voir un petit peu comment ça s'était passé.
Et je vous redis clairement, c'est pas à 15h qu'on braque. C'est à 18h30 qu'il faut me braquer. Là, tu vas me prendre 1000 balles, tu viens en sort, tu vas peut-être prendre plus.
Entre-temps, Didier prévient la police, il demande des agents civils.
La police me dit, monsieur, ils vont jamais revenir, c'est pas possible. Et je leur réponds, je pense que oui. Je suis bon vendeur, mais je pense que je suis pas sur des lumières.
À 17h30, les braqueurs reviennent, mais le dispositif policier n'est pas complètement en place. Didier doit gagner du temps.
Je sors du bureau et je l'engueule en lui disant « Faut t'acheter une montre, 18h30, c'est pas 17h30, dégage. » Et ils repartent.
Au bout de quelques minutes, la bande revient une troisième fois dans la boutique.
Les policiers sortent du bureau, le placataire, et donc là, il y a les arrestations.
Et voilà, qui c'est qui est champion du monde du braquage ? C'est nous !
Bravo, parce que là...
Merci Alex Bizarre.
Ils ont le seum les Français,
merci,
je peux vous dire.
Merci aux talents des braqueurs belges et des commerçants là-bas chez nous. Il est 17h25 sur France Inter.
C'est vrai, hein, j'ai pas inventé. Hein,
il est donc 17h25 à Bruxelles et à Laval, en hommage à notre invité Thibaut de Montalembert. On va aborder avec vous ce premier sujet. Quelle tuile, cette affaire Khashoggi ? L'Allemagne... Non !
Si, c'est bien amené. C'est bien amené.
Une tuile.
C'est la tuile.
C'est fâcheux.
L'Allemagne propose à ses partenaires européens d'arrêter de vendre des armes à l'Arabie Saoudite. Qu'en pense la France ? Eh bien, hier, un journaliste a osé poser cette question au président de la République alors qu'il parcourait les allées du salon Euronaval, donc au milieu des armes de guerre. Le président a répondu que ce n'était pas le sujet. Voilà, je vous ai placé le cadre. Mais pourquoi la France tient-elle tant à sa relation avec les princes du désert ? De savoir-faire. Le savoir-faire Made in France, bien sûr, qui se retrouve sur la gueule des Yéménites. Alors, c'est le groupe partenaire particulier. Thibaut de Montalembert, est-ce que vous, en tant que citoyen, vous vous sentez en accord avec la façon dont la France réagit dans ce domaine ?
Bien, ce que vient de dire le président. C'est-à-dire que moi, ce que je me pose comme question, c'est les Allemands vendent quoi aux Saoudiens ?
Ouais, ils ont que dalle. C'est vrai que là, ils ont fait un peu les malins en disant, bah nous, on vendra plus jamais. Bon. Alors qu'ils vendent vraiment à lance-pierre.
L'Allemagne a une tradition maintenant très pacifiste.
Oui.
C'est vrai.
Mais bon,
tout ça change. changé. Donc, il y a une époque
c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile de dire les choses.
La saucisse de Francfort ne prend pas, hein, du côté de l'Arabie Saoudite.
Et la bière non plus.
Oui, c'est bizarre.
Mais
c'est bizarre.
Vous comprenez ce pragmatisme économique où il vous met en pétard, quoi.
Oui, bien sûr, évidemment. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait? Mais ça, c'est une vraie question. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que le monde est en train de faire? C'est-à-dire que c'est effrayant, en fait. C'est effrayant.
C'est effrayant. Et quand vous êtes face à ce monde cauchemardesque autour, il y a des moments où on se sent plus touché, d'autres moins. C'est toujours le bordel et la catastrophe partout. Mais il y a des moments où on est... Cette affaire, par exemple, réveille une espèce de choc et de complexité, etc. Vous vous réfugiez aussi dans la littérature. Quand vous étiez gamin, vous faisiez des cauchemars, vous vous réfugiez dans la littérature. Est-ce qu'aujourd'hui, adulte, avec le
choc du monde, c'est ça? Mais aussi, parce que je pense aussi, je crois que j'en parle d'ailleurs un petit peu là-dedans, c'est que à force d'information, on croit avoir du savoir, on n'a pas du savoir, on a de l'information, et je pense qu'à force d'information, on devient de plus en plus insensible aussi. Et c'est un vrai problème, c'est-à-dire qu'on reçoit tellement de trucs comme ça à la seconde qu'on n'a même plus le temps.
On peut plus développer
d'empathie ou une simple réflexion, quoi. Du coup, c'est le dernier qui a parlé qui a raison. Et ça, c'est un peu problématique. Donc, je pense que il faut retrouver un espace de réflexion pour soi. Moi, ça a été les bouquins. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres.
Oui.
Mais je pense que c'est vraiment important de retrouver un espace de réflexion pour soi.
Mais est-ce que, par exemple, vous mettez de côté les livres qui renvoient à une réalité un peu sociale ou politique très, très réaliste dans le traitement et vous allez vers des trucs un peu plus fantaisistes?
Oui.
Il y a plus de Jules Verne que de Zola.
Il y a plus de Jules Verne que de Zola. Bon, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Non, c'est absolument.
Mais et
de Dumas. C'est. Ben, en ce moment, je suis en train de relire Dumas. En plus. Mais
Harry Potter aussi, c'est pas mal. Vous pouvez y aller là en termes de.
Mais assez peu de oui.
Mais sinon, oui, il y a peu de oui.
J'étais un peu déçu.
Il y a beaucoup de polars. Il y a beaucoup de polars.
Et beaucoup d'aventures. Il a raison dans ce qu'il dit.
C'est vrai.
Et sans bosser, Alex. Sans bosser.
La fiction est un refuge face à la réalité du monde dont vous êtes conscient, vous vous informez, vous avez une réflexion. C'est un refuge, la fiction.
La fiction est un refuge, mais comme les séries sont un refuge, comme la télévision est un refuge, sauf que la fiction littéraire, de mon point de vue, encore une fois, permet d'avoir, encore une fois, d'avoir un espace de rêve. De rêve à soi. Et que c'est dans cet espace qu'on peut éventuellement aussi confronter la réalité par rapport à son imaginaire.
Timo de Montalembert est avec nous.
Timo de Montalembert, c'est assez joli.
Il nous l'a fait toute la poésie.
Timo de Montalembert. On ne me l'avait jamais fait, celle-là.
On va profiter de ce cadeau. Hein,
c'est vrai que Pablo Mira a raison, j'ai besoin d'un orthophoniste.
Je vais
appeler Mathias Barneville, comme dans 10%. C'est votre personnage et beaucoup, beaucoup de gens vous connaissent comme ça. Il est 17h30 et c'est l'heure de passer la parole à celui qui sait parfaitement imiter l'odeur du sanglier. C'est vous, Pablo Mira. Spécialement pour votre anniversaire.
Ouais, l'heure du compliment, Charline, on le sent.
Pablo, aujourd'hui, vous êtes en colère contre les critiques permanentes envers la pratique de la chasse.
Ouais, ça oui, Charline, l'heure est visiblement au chasseur bashing. Et moi, je vous le dis, j'en ai marre d'entendre toujours les mêmes arguments. La chasse, c'est une pratique digne du Moyen-Âge. Écoutez, si vous avez un problème avec le Moyen-Âge, attaquez-vous plutôt à la dentition de Didier Deschamps. Hein, parce que moi, je veux dire, des gencives pareilles, j'en ai pas vu depuis Richard Cœur de Lion. Alors, je vous vois ricaner là, hein, bêtement, comme des lycéens de Créteil. Mais vous pouvez pas comprendre ce que c'est la chasse si vous n'avez jamais essayé. Moi, je veux dire, je me souviens encore de cette émotion intense que j'ai ressentie quand, à mes 6 ans, Papy Pedro m'a emmené chasser et que j'ai abattu mon premier sanglier. Alors, je vais vous dire, moi, ce qui m'attriste, c'est que dans ce désamour pour la chasse, c'est que c'est quand même la chasse l'une de nos dernières traditions fortes. Si on supprime la chasse, il ne restera quasiment plus rien comme tradition française, à part bien sûr ce bandeau BFM qui dit « Gaël, mon fils, de nouveau battu au premier tour, le tout en 3-7 face à un ramasseur de balles. » Moi, je suis aussi triste qu'on ne soit pas capable de voir la noblesse d'une pratique comme la chasse, et en particulier de la chasse à l'arc, qui est pour le coup la quintessence de cet art ancestral. D'ailleurs, j'en ai fait une fois au Canada pour chasser le grizzly. J'avais cet énorme monstre en face de moi. Alors, j'ai coupé ma respiration, j'ai visé
Et boum, je lui ai planté ma flèche en plein cœur. Bon, heureusement, on l'avait arrosé au napalm juste avant. Mais quelle sensation, quand même, Juju. Moi, je pourrais aussi vous parler de la chasse à cours. Quelle merveille, la chasse à cours. Fallait y penser, mélanger des trompettes et des chiens. C'est comme les médicaments et l'alcool, deux choses qui ne vont absolument pas ensemble et qui, au final, n'apportent que la mort. Mais moi, ce qui m'attriste le... Ça va, Juju ? Moi, ce qui m'attriste le plus avec ce bashing, c'est que la chasse est surtout l'un des derniers bastions de la ruralité. Ça et cette capacité de Jean Lassalle de faire des phrases que personne ne peut traduire. Hashtag glottophobie, évidemment, on en profite avant que la loi ne passe. Puis je vais vous dire... Très sincèrement, on est des animaux. On est des animaux comme les autres. C'est donc dans notre instinct de chasser. Parce que, vous savez, si les lapins avaient des bras, un penchant pour l'alcool, un fusil, 200 euros pour acquérir un permis de chasse et aucun respect pour le vivant, je suis sûr qu'ils feraient comme nous. Alors, je vais peut-être vous étonner, les gauchistes, là. Mais en plus, les chasseurs, ce sont les vrais écologistes, pour le coup. Regardez, réfléchissez. Ils ne pensent qu'à eux. Ils sont portés sur la picole. Et les Français les détestent. Si c'est pas du Jean-Vincent placé tout craché, ça. Moi, je ne sais plus quoi faire. Car on a aussi besoin de la chasse, ne serait-ce que pour réguler la population des espèces dites nuisibles, parce qu'on sait tous ce que ça donne quand il y a trop d'individus nuisibles au même endroit. Ça donne le plateau des terriens du dimanche sur C8. On embrasse Thierry. Alors même les ONG reconnaissent qu'ils sont utiles, les chasseurs, parce que ce sont eux qui s'occupent, entre autres, chaque année, du comptage des oiseaux. Pan ! Un de moins, pan, deux de moins, pan. Ah non, ça c'est un dauphin. Et ce travail, les chasseurs le font bénévolement parce qu'ils aiment la nature. Oui, Charline, on peut aimer une chose et la détruire en même temps. Bolloré en a même fait une stratégie vis-à-vis du groupe Canal+. Alors bien sûr, il y a des accidents, c'est malheureux, mais ça, Charline, on ne pourra jamais les éviter totalement. Moi qui chasse par exemple le marcassin, eh bien je suis malheureusement obligé de tirer sur des humains qui en portent au pied pour pouvoir pratiquer mon loisir.
Je crois que vous confondez avec des mocassins, parce que les marcassins à glands, ça n'existe pas.
Oui. Qui explique pourquoi le directeur de la foire à la chaussure m'en a voulu après avoir tiré sur ses clients. Bien vu, Charline, bien vu. Allez, bref, même si ce beau loisir a aussi ses défauts, la chasse fait entièrement partie du cycle naturel de la vie. L'insecte est tué par le batracien est tué par le rapace par le chasseur, et le chasseur, lui, est tué par la cirrhose, évidemment. Pour conclure, moi, j'aimerais juste rappeler que les chasseurs ne sont pas méchants. Et vous savez, ce sont même les premiers amoureux de la nature. Et quand un chevreuil se prend une cartouche de chevrotine dans la nuque, c'est une manière de lui dire je t'aime. Allez, salut et musique.
Ça peut marcher. Pablo, Mira, merci beaucoup, Pablo. Et c'est Thibaut de Montalembert, notre invité, alias Mathias Barneville, dans 10%. Et aujourd'hui, il nous parle de livres. Restez avec nous sur France Inter.
The Lemon Twigs, Small Victories. Merci à Djoubaka pour ce joli morceau. C'est Djoubaka qui s'occupe de la programmation musicale dans Par Jupiter. Notre invité, c'est Thibaut de Montalembert, qui publie aux éditions de l'Observatoire Et le Verbe se fait cher. Coquinou va. On va en parler tout à l'heure avec Juliette Arnaud. Avant ça, un autre gros coquinou, c'est Guillaume Meurice.
Oui, bonjour. Moi, je vais vous parler du bio aujourd'hui. Oh là là, parler du bio sur France Inter, quelle audace! Je suis un petit peu foufou. Autant dire sur CNews que les Arabes sont tous des voleurs. Mais allons-y. Il y a une cohérence quand même, je dirais, avec la playlist notamment de France Inter. C'est vrai que le bio, vous aurez remarqué, vous avez un excellent transit. Et c'est vrai qu'Eddie de Préto, bah, ça fait un peu chier. Donc je me suis dit, c'est dans le thème. Et une étude a récemment démontré qu'on avait beaucoup moins de risques de choper un cancer si on mange bio. Et alors là, on est quand même vachement surpris. On apprend des trucs. Il paraît même que manger des pneus n'est pas conseillé aux enfants. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est quand même de donner la parole aux anti-nourritures bio, parce qu'on les entend assez peu. Mais il y en a qui aiment le cancer. Hein. Je pense à toute la rédac du magazine du Lymphome qui nous écoute, ou de Passion Métastase. Voilà. Et je suis donc allé sur des marchés parisiens ce matin, et j'ai d'abord interrogé un maraîcher pas bio.
Alors pour moi déjà, le bio, c'est sans engrais. Bio, c'est sans engrais. Ben oui. Mais pas de l'engrais. Non, non. Parce qu'ils mettent de l'engrais bio, mais ils mettent de l'engrais quand même.
Ah ben oui, mais si c'est de l'engrais bio, c'est quand même bio.
Il ne peut pas y avoir de produits bio parce que l'eau n'est pas bio.
Ah, alors oui, ça c'est autre chose. N'arrosez pas avec de l'eau au glyphosate. Sinon, évidemment, ça s'annule, le bio. De même, si vous mangez bio en fumant une gitane maïs, même du maïs bio, ça s'annule. C'est un petit peu technique, le bio. Soyez concentrés. On continue avec un autre monsieur qui ne se sent pas quoi.
Pas tellement concerné.
Ah, c'est vrai? Vous vous en foutez un peu du bio?
Oh, bah écoutez... Il n'y avait pas de bio du tout pendant la guerre, on a survécu, alors vous voyez.
Bon argument, pas de bio, il a survécu. Alors deux hypothèses, soit le bio est inefficace contre les nazis, ça je ne sais pas, il faudra organiser un débat entre José Bové et Goebbels pour en savoir un petit peu plus. Ou alors il y avait davantage de bio pendant la guerre, parce que chacun cultivait son jardin sans pesticides de synthèse. Parce que ce qu'on appelle bio aujourd'hui, c'est la nourriture normale en fait. Hein. C'est l'autre qu'on devrait appeler paye ta chimio, ça serait quand même plus logique. Alors là, c'était l'ancienne génération. Voyons voir avec la nouvelle génération, le bio, c'est quoi pour cette jeune fille?
C'est de la connerie.
C'est de la connerie?
Bah ouais.
Il y a une étude qui montre que les gens qui mangent bio ont moins de chances de développer un cancer que les autres.
J'y crois pas du tout à ça. Hein. Franchement, pour l'instant, je vais bien. Hein.
Après, c'est peut-être à long terme aussi que ça se joue, non?
Moi, j'y crois pas à ça.
Même si les scientifiques le disent?
Ouais, mais bon, moi je trouve ça c'est de la manipulation, c'est tout.
C'est possible. On peut même parler d'un complot, je pense. Il y a des congrès de scientifiques qui se réunissent la nuit dans les biocoop. D'ailleurs, regardez bien dans le logo des Illuminati, on voit clairement un radis et une carotte. Enfin, coïncidence, je ne crois pas. Donc ça, c'était la Robert Forisson du potager. Mais on peut trouver également la Louise Michel.
Je fais partie des gens qui résistent au bio encore.
Vous résistez au bio?
Oui, je résiste au bio. J'ai 63 ans. Je me dis que j'en ai pour 10-15 ans. Alors laissez-moi bouffer du non bio, s'il vous plaît.
Comment vous faites pour résister au bio? Dès que vous voyez un légume pas bio avec des pesticides, vous le jetez dessus?
Mais écoutez, ça va, regardez. Père breton, mère polonaise, tout va bien.
Ah oui, c'est les origines polonaises, oui. Ça on en a un dans l'équipe aussi. C'est vrai que ça résiste. Hein.
On est tranquille.
Ouais, pourtant, il bouffe les pires saloperies sur le plateau d'Ardisson toutes les semaines, mais il est là, il résiste. Alors comme on était devant un cas d'espèce, hein, la résistance au bio, j'ai poursuivi avec cette dame qui n'est jamais quoi?
Jamais malade.
Mais c'est peut-être grâce aux pesticides, alors.
Mais c'est ce que je me dis. Écoutez, moi, je connais mes petits producteurs.
Ouais.
Donc, tout va bien. Je leur demande pas, c'est bio? Non.
Bah là, ils sont pas bio, là.
Ben, voilà. Ben, c'est très bien.
Ben, voilà, ben, on n'est pas bien, là. Bouffer du Roundup. Détendu de la fan. On plantera quand on aura de planter. Voilà, ça me donne envie de bouffer de la viande, tiens. Et puis, bouffer du poulet aux Ormanes aussi. Allez.
J'ai une nièce, malheureusement, qui est végétarienne, mais enfin bon.
Malheureusement, elle est végétarienne, vous pensez?
Elle est végétarienne, ouais, mais pas encore végane, parce que ça, c'est pour moi, être les végans, c'est des débiles. Voilà.
Pourquoi c'est des débiles?
Les véganes, hein, ouais. Des débiles fous. Non, 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 c'est trop. Mettre pas de cuir. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces cons?
Bah, mais nous emmerde, ces cons-là. Tous ces gens qui veulent que l'humanité meure pas. On veut une fin du monde non bio, bordel. On veut une fin du monde sponsorisée par la FNSEA. Un truc qui est de la gueule. Allez, il est temps de conclure.
Moi, j'ai été élevée avec du Saint-Doux, vous savez, les tartines au Saint-Doux, à 4 heures.
À 4 heures pour le goûter?
Pour le goûter. Et on vit très vieux dans le Morbihan.
Oui, je vois ça.
Maintenant, il paraît qu'il y a des enfants sans bras ou de machin. Bon, alors ça, à mon avis, c'est vrai que les pesticides ont dû passer par là. Ça, je reconnais.
Oui, c'est possible, mais comme on dit, pas de bras, pas de Saint-Doux. Hein, voilà.
Pas de bras, pas de chocolat.
Pas de chocolat non plus. Puis quand on voit que la moitié de la planète crève de faim et que l'autre moitié se bat pour pas crever en bouffant, on se demande si le problème, ce serait pas que le bio, justement, ça coûte un bras.
Guillaume Meurice dans ses œuvres. Merci Guillaume.
Et les gens aussi, les gens
dans leurs œuvres. Les gens, effectivement.
Et le merci de Saint-Doux.
Les gens qui vivent parmi nous. nous, hein, faut le rappeler.
Ils sont là.
17h43 sur France Inter, vous écoutez Par Jupiter avec comme invité Thibaut de Montalembert. Et on va parler avec vous du cinéma français qui est en plein divorce pour l'instant avec Canal+. C'est Canal qui rompt le contrat de mariage dans le temps actuel. La chaîne cryptée est encore le premier financier du cinéma. Mais au moment de renégocier les accords, Canal a rompu la discussion car il dit dépenser beaucoup et n'est propriétaire de rien. Et puis la perte des droits du foot, la chute des abonnés, fait surtout qu'il y a moins de sous, évidemment.
Écoute Camille, le cinéma c'est pas un truc qu'on fait comme ça, comme on fait de la danse ou du judo.
Oui, je sais.
Avant tout, c'est une industrie et c'est un monde de requins. Si c'est pas toi qui bouffes les autres, c'est toi qui bouffes. C'est horriblement difficile.
Super.
Écoute, si tu aimes vraiment le cinéma, va t'acheter une carte UGC. Ça t'évitera bien des déconvenus.
C'est vous, Thibaut de Montalembert, dans votre personnage.
C'est pas moi.
Non,
c'est pas moi.
C'est Mathias. C'est Mathias Barneville, bien sûr, votre personnage, avec votre fille qui est jouée par Fanny Sidney dans 10%, la série de France 2, qui reprend d'ailleurs à partir du 14 novembre sur France 2. Alors, Thibaut de Montalembert, comment pourrait réagir votre personnage à cette annonce? Il dirige une agence avec des agents. Là, il y a Canal+ fait mine pour l'instant dans les négociations de se barrer. Ils sont en train de parler de la chronologie des films, c'est-à-dire une fois que le film sort en salle, à partir de quel moment il sort sur Canal, ensuite en VOD, etc., pour que tout le monde puisse se ménager une plage assez large de promotion. Et là, c'est vrai qu'avec la perte des droits du foot, etc., Canal est en train de se désinvestir un peu de tout ça, alors que c'est le premier guichet. Votre personnage, Mathias Barneville, dans 10%, toute l'agence est affolée, là, non?
Ah bah oui, tout le monde est affolé, évidemment. Ouais. Puis alors, Mathias, lui, il a dû grandir, sûrement, avec Canal+, avec la prolifération de Canal+, les belles heures de Canal+, etc. L'exception culturelle.
Et le cinéma sous perfusion, un peu.
Et le cinéma sous perfusion, et que tout d'un coup, cette vieille dame, pas si vieille que ça quand même, mais enfin bon, se casse la gueule, c'est un choc, mais en même temps, bon, bah voilà, c'est en train d'arriver, et il va falloir trouver une autre façon de faire du cinéma. Ça, c'est comme les bouquins et l'Internet. On a beau dire « Ah, c'est dommage, ils lisent plus », mais c'est comme ça. Je veux dire, ça sert à rien de se...
Ça peut être une force, une bonne chose. Est-ce qu'on peut voir les choses de manière positive et se dire « Ça va donner un coup de pied au cul à la créativité ?»
Peut-être, je ne sais pas. Moi, j'ai tendance à penser ça parce que je pense que l'humain est plus inventif que ce qu'on ne pense et que quand il est acculé à quelque chose, il trouve une façon de faire différente. Ce qui est en train de bouleverser tout, évidemment, c'est les plateformes, c'est Netflix, c'est Amazon, c'est tout ça qui arrive. Ces gens-là ont énormément d'argent. Et leur intérêt, c'est de fournir du film, de fournir de la fiction, etc. Donc, ils vont investir. Mm-hmm. Alors, il faut voir comment ils vont investir.
Et comment le cinéma français peut s'adapter en face
Exactement.
Faudrait pas monter un crowdfunding pour soutenir Nicolas Devauchel et Louis Garrel? Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gens?
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Les gars, courage.
Thibaut de Montalembert, vous avez été très, très, très popularisé par cette série 10%. Vous avez pourtant déjà une longue carrière au théâtre, au cinéma. Vous expliquez que au début, votre personnage de Mathias Barneville, un peu froid comme ça, directeur d'agence, faisait que les gens n'osaient pas trop vous aborder quand vous avez commencé à être un peu connu.
Vous avez l'air quand même...
C'est vrai? Non. Mais
c'est vrai, absolument.
Moi, j'avais peur parce qu'on a partagé la loge à la pépinière. Je me suis dit, je vais essayer de pas le croiser.
Voilà. Alors, mais au troisième épisode, quand Mathias Barneville fend un peu l'armure dans la série... Ouais. Ça vous a ouvert aussi, les gens sont venus vous voir.
Tout d'un coup, les gens me disent, on vous avait bien repéré dans la rue, mais on voulait pas vous le saluer parce qu'on vous trouvait tellement antipathique, tellement insupportable. Finalement, vous êtes pas si mal que ça.
Est-ce que c'est pas la preuve que, quand même, c'est regardé par des cons? Je pose la question.
On est tout à fait fan de cette très très belle série 10%. Thibaut de Montalembert, vous avez publié Et le verbe se fait chair, paru aux éditions de l'Observatoire. Juliette Arnault l'a dévoré tel un petit four.
Un petit four, tout à fait. Alors donc ça s'appelle Et le verbe se fait chair. Alors la citation c'est au commencement était le verbe et le verbe s'est fait chair. Ouais. Alors c'est dans l'évangile selon Saint Jean, au commencement Dieu qui s'incarne dans un corps, Jésus-Christ par le truchement de sa maman, la Vierge Marie. Alors vous pardonnerez ma maladresse d'expression, je suis agnostique, tout ça demeure pour moi très lointain, peu habité justement. N'empêche qu'un acteur, une actrice, c'est celui, celle qui incarne ce qui avant lui n'était que des mots. Et souvent
Pour être acteur, il faut d'abord être lecteur. Et souvent, l'histoire d'un lecteur, d'une lectrice, celle de Thibaut de Montalembert ne fait pas exception, c'est l'histoire d'une solitude. La lecture, c'est l'essence même du plaisir solitaire, bien plus que la masturbation. C'est sa genèse. Ah oui, parce que maintenant, la masturbation, on le sait à présent, hein, grâce à Louis C.K., par exemple, l'acteur qui pratiquait son plaisir solitaire devant un public choisi. Choisi par lui. Le public, il l'avait moyen choisi. Bref, parenthèse fermée. Le plaisir solitaire, donc la solitude de la lecture, qui finalement te ramène au monde. Le verbe, la chair, c'est ça, le chemin. Et le récit de ce chemin, c'est finalement très cru. C'est même, selon moi, plus cru, alors cru dans la définition qui, par exemple, se dit d'une lumière, d'une couleur que rien n'atténue, c'est plus cru que n'importe quel article de Presse People où la partie la plus basse de toi se réjouira de la cellulite sur la cuisse d'une vedette ou de la minaillerie d'une autre vedette devant une clinique de désintoxication où il se prépare à soigner mollement quelque addiction. Dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es. Dis-moi comment tu as commencé à lire ou dans quel état. Révèle-moi ce prisme et je saurai qui tu es en lumière interne, en lumière crue, pas cuite. Avec Thibaut de Montalembert, alors là, carrément, c'est pain béni. Blague cléricale, excusez, c'est ma première. Imaginez, c'est l'histoire d'un petit garçon, dernier d'une fratrie nombreuse, esselé donc, et dont la maman rêvait d'offrir à son fils, d'offrir son fils à la très sainte église catholique, tu seras missionnaire, mon fils. Au point que pour sa première incarnation, Thibaut, vous êtes curé de Cucugnan. Bon, maintenant, on le sait, Thibaut de Montalembert ne s'est pas fait curé, il s'est marié pour être sûr que pas, et il est devenu comédien. Sauf que votre cri du cœur quand vous parlez de votre amour pour Racine, ça prend la forme d'une prière pas tellement païenne et je vous cite « Je crois que rien n'égale le vers racinien et je prie le ciel de bien vouloir m'accorder de le jouer ne serait-ce qu'une fois ». C'est rigolo ces constants allers-retours entre le religieux et le laïc qui est là dès l'enfance et les lectures, avec vos nuits peuplées de cauchemars de sorcières, au départ contrebalance avec des lectures tout à fait dignes, Saint-Augustin ou Bossuet, et puis le pensionnat en Vendée, qui est une terre de sorcellerie, et puis la chair, hein, l'autre, pas celle de Jésus-Christ, la chair qui commence à picoter avec les écrivains libertins du 18e, coucou Marquis de Sade, hello Anaïs, et finalement la magie, pas occulte, mais lumineuse, celle du théâtre, et je vous cite, ou par une sorte de rituel magique à l'aide de mots, les dieux, les héros, les hommes sont appelés, sinon convoqués à l'existence. Quelqu'un comme vous, Thibaut, qui aime suffisamment les livres pour savoir que même les meilleurs, même les plus illustres livres, ne contiennent pas que des portes de sortie, mais parfois des portes comme celle de Nikita. Elle était murée, la fenêtre, Bob, murée ! Oui, une vie dominée par exemple par les essais de Montaigne, comme celle de votre père, sera une vie plus vulnérable qu'une autre qui aurait été sous l'emprise du prince de Machiavel au hasard, qui est le livre de chevet de François Pinault, et je l'ai appris. Et moi, ce que je vais vous apprendre, c'est que c'est le prince de Machiavel, c'est aussi le livre cadeau que Silvio Berlusconi, offrait à tous ses amis. C'est marrant, ça leur fait un point commun. Je pose ça là, hein, chacun le traduit comme il le sent. Et je referme la parenthèse. Bref, il appert que le chemin est parfois hasardeux, du verbe à la chair. Merci, bisous, merci.
Juliette Arnaud. Merci beaucoup pour cette lecture. Et le verbe se fait cher, c'est paru aux éditions de l'Observatoire. C'est le chemin et l'histoire littéraire et la bibliothèque de Thibaut de Montalembert. On va aborder cet autre sujet qui a trait à la langue. C'est le dictionnaire de l'Académie française qui n'est toujours pas terminé. Mais qu'est-ce qui branle sous la coupole? Hein, il s'agit genre garant de la bonne orthographe mais refuse de féminiser les noms par exemple. Alors pour en savoir plus, glissons-nous dans une séance de l'Académie.
Eh bien, nous ne sommes que trois.
Les autres sont aux putes. Bien, messieurs, le mois dernier, nous avons inscrit à notre dictionnaire le mot « faux-col ». Nous avons à débattre aujourd'hui de l'introduction
du mot « faux-cul ».
Bon, et messieurs, nous avons assez travaillé. Je propose de clore la séance.
Ça me permettra de terminer ma préface de mon dernier ouvrage qui rassemble toutes mes préfaces.
C'est un extrait du Petit Théâtre de Bouvard avec notamment Régis Laspalès. Nous avons choisi ce sujet dans l'Express avec cette interview du linguiste Bernard Cerchilini. Thibaut de Montalembert, l'amoureux des livres que vous êtes, n'est pas amoureux du dictionnaire. J'ai cru comprendre.
Ah, du dictionnaire, si. Moi, si. Je trouve ça passionnant, le dictionnaire, en fait.
Parce que vous avez des problèmes d'orthographe, mais vous aimez le dictionnaire.
Oui, parce que c'est vrai que quand on commence à lire, on cherche un mot dans le dictionnaire, et on lit la définition, ok, du mot qu'on cherche, très bien. Et puis après, on se dit, tiens, mais qu'est-ce qu'il y a en dessous? Et puis on commence à regarder, et là, on découvre des trucs. On découvre des trucs vraiment incroyables, quoi. Donc non, j'aime beaucoup le dictionnaire.
Et quel est votre rapport à l'orthographe? Est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose peut-être d'élitiste incarné par l'académie? Ou c'est un code que vous avez du mal à
c'est
dominer?
C'est un code que j'arrive pas à dominer du tout. C'est-à-dire qu'il m'échappe continuellement. Je peux écrire sans faire des fautes du tout, et puis de page suivante, j'en fais 50. Je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est comme ça.
Est-ce que vous nourrissez un complexe de ça ou
C'est-à-dire que c'est un peu handicapant, parce que c'est un peu handicapant. C'est-à-dire que j'envoie des SMS comme tout le monde, et puis il y en a qui sont bien, puis d'un coup, il y en a, ça vrille.
Et donc, cette espèce de mythe comme quoi plus on est lecteur, mieux on écrit est assez faux.
Oui, total. En ce qui me concerne, oui, complètement.
Ça me rassure.
Donc, retournez à vos jeux vidéo, c'est pas la peine de regarder ailleurs.
C'est passionnant. Votre livre, vous l'avez donc
Je l'ai enregistré, en fait.
Je me suis servi. Comment avez-vous
procédé? Parce que je me suis servi d'un logiciel qui s'appelle Dragon Dictate, en fait. Et c'est un truc dément où on a un casque, un micro, on parle, c'est-à-dire on raconte ce qu'on a à raconter et on voit le texte se mettre en page sur l'ordinateur. Donc j'ai fait 30 pages comme ça, puis après je suis parti dans l'écriture.
Mais ensuite vous retouchez le texte comme n'importe quel écrivain sur son ordinateur.
Oui, alors mais j'ai écrit ce livre.
C'est là qu'il y a des fautes qui s'introduisent.
Voilà, mais exactement. Et puis j'ai écrit ce livre quand même aidé par Ségolène Vinson. Et Ségolène me disait ce qui est étonnant, c'est que quand tu enregistres, on a l'impression que c'est écrit, et quand tu écris, on a l'impression que c'est rien du tout, en fait.
C'est amusant quand même comme démarche. Hein, pour votre
en même temps, bon, je suis comédien, donc c'est vrai que la parole, ça fait partie de... Voilà, il y a le rythme, il y a la langue, il y a quelque chose
votre livre, vous l'avez presque déclamé devant l'ordinateur.
Oui, enfin, c'est pas non plus Flaubert.
Mais Montaigne, les essais de Montaigne sont dictés. Vous avez fait comme Montaigne.
Les essais de Montaigne
n'a pas écrit, en fait,
il a dicté. Pas ça.
Bon, c'était pas un logiciel de traduction.
C'était sa femme,
je sais pas qui.
Parce que Dostoïevski, c'était sa femme, je crois.
Ah bah voilà.
Faites attention, on est en train d'un peu trop monter le niveau de cette émission. Donc Thibaut de Montalembert va vous proposer de revenir à votre autre amour, la comédie, si vous êtes d'accord.
Rabaissons le niveau, Alex Visorek, un sketch, c'est ce que vous allez dire. Bien sûr, mais bien sûr. J'ai ça en boutique, évidemment. En fin d'émission, on propose toujours un rôle à l'invité. Et comme...
Allez, les calembours d'Alex.
Nous sommes à Davos, au Davos saoudien, c'est-à-dire que le grand sommet là-bas, le patron d'EDF et le patron de Siemens ont dit on n'y va pas avec tous les problèmes de l'Arabie saoudite dont on a parlé en sujet 1. En revanche, le patron de Total, il s'est dit je vais y aller, moi j'aime bien.
Davos du désert,
Patrick Pouyanné, et ça c'est vous, il est suivi par un journaliste, c'est Guillaume Meurice, et puis il rencontrera l'une ou l'autre personne là-bas, on s'y rend.
Alors Patrick, pas trop seul ?
Ah mais pensez-vous, je suis entouré de troupeaux de chameaux.
Non mais je dis seul en tant que chef d'entreprise, je veux dire.
Bon écoutez, je suis persuadé que de l'inutilité de la politique de la chaise vide.
Bah en Arabie Saoudite, on est plus proche de la politique de la chaise électrique. Hein,
quand même. Mais pas du tout.
Bah ici, on décapite au sabre, monsieur.
Ah effectivement, c'est plus écologique que l'électricité. Et pour Total, l'écologie, c'est important.
Mais ça vous gêne pas de discuter commerce en pleine affaire Khashoggi, là ?
Khashoggi ?
Khashoggi, le journaliste disparu.
C'est quoi, je le connais pas.
On n'est donc pas de valeur.
Des quoi, je connais pas.
Bah, attendez. La condition des femmes.
Les femmes, je connais.
Oui, les femmes, vous connaissez, mais leurs conditions.
Ah, elle a beaucoup, beaucoup progressé. Mais rendez-vous compte, aujourd'hui, elles ont le droit de conduire.
Oui, mais des militantes sont toujours en prison pour avoir lutté pour le droit de conduire, quand même.
Oui, écoutez, elles ont le droit de conduire en prison, c'est un début, non?
C'est quand même pas très pratique, hein, parce qu'on se cogne beaucoup dans les murs.
Voyez le bon côté des choses. Vous pouvez jouer aux auto-tamponneuses.
C'est de l'humour raffiné.
Bah, évidemment, puisque je suis le patron de Total.
qui est seul au Davos du désert.
Pas du tout. Regardez, voici le prince Mohamed Ben Salman.
Bonjour, monsieur Pouyanné.
Merci, prince des droits de l'homme.
Vous n'en faites pas un peu beaucoup, là
Qui c'est celui-là?
Ne faites pas attention à lui, c'est un abruti de France Info.
Voulez-vous qu'on s'en occupe? On aime beaucoup les journalistes, nous.
Faisons plutôt des affaires dans un premier temps.
J'aime votre discours franc et exigeant.
Si je puis dire, c'est l'essence même de Total.
Vous êtes drôle, dites. Les autres patrons français, vous croyez qu'ils finiront par venir?
Ah, mais j'en mettrai ma main à couper.
Ah, je vois que vous êtes quand même un peu conscient de la réalité du pays.
J'ai un nouveau slogan pour Total. Total, vous ne vendrez plus chez nous par hasard.
Glottophobie.
Je trouve que sans accent, ça marche moins bien.
Bien sûr. On n'était pas sûr de l'accent, surtout, en fait.
Alors, dans le russe.
On a fait un
c'était
peu
tchétchène.
Il a terminé sur le pied noir.
On était la vérité, si je m'en
Je vous rappelle que Pacino prend l'accent espagnol d'Anthony Montana. Personne ne lui dit rien, on lui donne un Oscar.
Alors, bon. En plus.
Merci beaucoup Thibaut de Montalembert
pour avoir
incarné le patron de Total notamment, mais aussi, donc je rappelle, votre livre « Et le verbe se fait chair » paru aux éditions de l'Observatoire. Et puis on attend impatiemment patiemment la troisième saison de la série 10% sur France 2, de nouveau à partir du 14 novembre. Exactement. Merci beaucoup les amis. Merci à Juliette Arnaud, à Pablo Mira, à Alex Vizorek et Guillaume Meurice. On va se retrouver demain avec un autre auteur, Jean-Marie Gouriot. Et voici le mot de la fin qu'on laisse à l'une de nos auditrices.
Ma petite Annette Vanenecker, c'est ma choupe.
Est-ce qu'on est sûr du prénom? Ça se trouve, c'est Charline.
Voilà, c'est ça. Ben, c'est Charline. Moi, je l'appelle Annette.